Chapitre 40.
J'y arriverai jamais!
Gémit Kevin au-dessus du vacarme de l'orage. Il n'y avait pas plus de 5 mètres entre l'arrière du camion et la pompe sur laquelle se trouvait son sac, mais les lamproies rétrécissaient leur cercle à chaque passage, et il avait vu avec quelle rapidité elles pouvaient se déplacer. Les joues pâles de Cordy étaient éclairées par chaque éclair. Elle eut un mince sourire.
Non, sauf si je fais... comment on appelle ça? Diversion?
Avant que Kevin eût le temps de répondre, elle se laissa glisser de l'autre côté du camion, sauta sur le gravier de l'allée et descendit la pente à toutes jambes. Les lamproies virèrent à gauche et accélérèrent derrière elle, comme des requins flairant l'odeur du sang dans l'eau. Kevin se laissa à son tour glisser de la citerne, sauta par-dessus le pare-choc arrière gauche, saisit son sac et retourna au camion au moment où la pompe commençait à aspirer de l'air. La cuve était vide. Au lieu de grimper à l'arrière, il fit le tour du véhicule, attrapa le talkie-walkie et bondit dans la cabine. En bas, Cordy avait atteint l'asphalte de Depot Street, 2 mètres avant la première lamproie, qui plongea profondément, tandis que la fillette trébuchait au milieu de la route, s'arrêtait, sautillait sur place, agitant les bras en direction de Kevin. Les roulements de tonnerre couvraient ses paroles. « Pas bête !» pensa-t-il, mais à cet instant, une des lamproies jaillit de l'autre côté de la rue et, poussée par son élan, glissa sur la surface goudronnée comme un dauphin apprivoisé sortant d'un bassin de ciment mouillé. Cordy bondit, échappa de quelques centimètres et tomba lourdement sur le sol, ruant pour esquiver le monstre. La lamproie dépassait bien de 5 mètres de son trou maintenant. Kevin sortit de son sac le briquet et la clé de contact. Le moteur démarra aussitôt. L'espace d'un instant, le garçon pensa à toutes les sens répandues autour de lui, aux quelques 4 000 litres en train de gargouiller dans la citerne pas fermée derrière lui, aux gouttes qui s'écoulaient encore du tuyau et à l'étincelle de l'allumage au milieu de tout ça.
« Tant pis, si ça saute, je le saurai jamais. »
Cordy rampait sur le dos à reculons, fuyant la créature qui se tordait à sa poursuite, la gueule ouverte au point de faire le double du diamètre de son corps. Kevin passa en première et descendit l'allée. En passant sur le corps de la lamproie, le véhicule vibra comme s'il avait touché un gigantesque câble de téléphone. Puis le garçon ouvrit la portière, sortit du camion et tira Cordy tandis que la lamproie rentrait lourdement dans son trou, comme un tuyau rangé sur un enrouleur. Kevin, le briquet à la main, regarda la chose. La flamme du briquet ne durerait pas assez longtemps dans ce vent pour y mettre le feu. Cordy arracha une longue bande du bas de sa robe et la lui tendit. Il s'accroupit et roula le morceau de tissu en boule en s'abritant du vent derrière la portière du camion. De l'essence avait déjà coulé sur la robe de Cordy, le lambeau de toile s'enflamma au second essai. S'éloignant en hâte du camion, Kevin lança sa mèche improvisée dans la gueule de la lamproie qui, sentant un objet s'approcher, commit l'erreur de le saisir entre ses mâchoires. Tout l'avant de l'animal prit feu et une flamme bleue fila à toute vitesse le long du corps annelé. L'essence répandue sur la route s'enflamma avec un « whoosh » et une langue de feu courut en direction de l'arrière du véhicule. Cordy n'attendit pas que le camion explose. Dès que Kevin était descendu, elle s'était glissée derrière le volant. Elle appuya sur l'accélérateur et éloigna le camion-citerne de la flaque d'essence sur la route. Kevin cria, courut le long du véhicule et se hissa sur le marchepied du côté du passager. La portière était enfoncée et coincée, mais il entra la tête la première par la fenêtre.
« Tourne à gauche »
haleta-t-il. La fillette était juste assez grande pour atteindre les pédales sans lâcher le volant. En fait, elle se tenait quasiment debout. Le camion, en première, ronflait et vibrait. Le talkie-walkie grésilla. C'était Mike.
« Mike !» commença Kevin. « Qu'est-ce que tu fabriques ? Kev !»
La voix de Mike était pressante. Il entendait derrière lui, au milieu des grésillements, des cris et des coups de feu.
« Fais tout sauter, Kev! Maintenant! Fais sauter cette maudite école! Mais il faut d'abord que vous sortiez !»
hurla Kevin dans l'appareil. Ils prirent le tournant à gauche sur les chapeaux de roue et continuèrent en direction d'Old Central, cahotant sur les pierres et les rebords de trottoir. À 10 mètres devant eux, une lamproie surgit du sol pour leur barrer la route.
« Fais tout sauter, Kev !»
hurla Mike d'une voix presque démente.
« Tout de suite ! Tu m'entends ?»
Puis il y eut un silence, comme si l'appareil avait été détruit. Cordy regarda Kevin, jeta un coup d'œil à la créature ondulant devant eux, hocha la tête, grimaça un sourire et enfonça la pédale de l'accélérateur. Roon traîna Dale et Harlan en haut de l'escalier qui ressemblait maintenant à une cascade de cire fondue sous le vitrail tapissé de moisissures. Sans s'arrêter à la mezzanine de l'ancienne bibliothèque, ils arrivèrent au palier du premier étage et devant leur ancienne classe. La porte était réduite de moitié et à demi cachée par de longues touffes de poils noirs germant du mur. Roon jeta à l'intérieur les deux enfants que son traitement brutal avait amenés au bord de l'évanouissement. Les rangées de pupitres étaient toujours à leur place. Le bureau de l'institutrice se trouvait encore là où Madame Fodder l'avait installé et le portrait de George Washington était accroché au même endroit. Mais tout le reste était méconnaissable. Un épais tapis de moisissures poussé des lattes du plancher recouvrait les pupitres comme une draperie d'un bleu verdâtre. Sous la plupart des pupitres, il y avait des monticules où se devinait l'arrondi de têtes d'enfants cachées sous leur couverture. Les angles des épaules, le luisant de l'os à l'endroit où les doigts sortaient de l'édredon de mousse bleue. Dale faillit s'étrangler en respirant l'odeur de la pièce. Il essaya de retenir son souffle, mais au bout d'un moment, il fut bien obligé de respirer les miasmes de la putréfaction. On voyait à peine les éclairs entre les filaments qui couvraient les fenêtres, remplissaient presque tout l'espace entre les pupitres et le haut plafond, et s'accrochaient au mur en bouquets buboniques. Ils semblaient tous faits de ce tissu musculaire vivant. Des veines et des artères circulaient sous leur surface luisante, translucide. Par endroits, une masse molle et fibreuse remuait au milieu d'un tendon plus large et quelque chose leur faisait un clin d'œil. Madame Fodder et Madame Dugan, assises bien droites au bureau, étaient bien réveillées et parfaitement mortes. Madame Dugan avait passé 8 mois dans la tombe, cela se voyait. Une petite bestiole rapide bougeait au coin de son œil gauche. Madame Fodder semblait être entrée dans cette pièce encore en vie peu de temps auparavant, mais ses yeux étaient glauques et des écheveaux de filaments sortaient de son corps à une douzaine d'emplacements, la reliant à son siège, au bureau, au mur et aux monstrueuses toiles d'araignée. Lorsque Dale et Harlan entrèrent, ses doigts s'agitèrent. La classe commençait. Harlan eut un hoquet et esquissa un mouvement pour s'enfuir. Carl Van Syck apparut à travers la tenture de filaments qui faisait office de porte et pendant un instant, Dale pensa que le noir dont Madame Moon avait raconté la pendaison était revenu. Van Syck était noir, sauf deux billes complètement blanches à la place des yeux. Mais sa couleur n'était pas une caractéristique raciale. Sa peau et sa chair étaient calcinées au point de le transformer en une caricature écailleuse et desséchée d'être humain. Son menton et sa mâchoire inférieure avaient disparu, ainsi que la majeure partie des muscles de ses bras et de ses jambes. Ses doigts étaient devenus des griffes recourbées, rappelant une sculpture semi-abstraite taillée dans du charbon. De pâles liquides suintaient de son corps. Il tourna la tête vers les deux enfants et parut renifler l'air comme un chien retrouvant une piste. Dale empoigna Harlan et ils reculèrent jusqu'à la première rangée de pupitres. Une forme bougea sous l'édredon de mousse dans leur dos. Tubby Cook se leva de derrière un pupitre du dernier rang. Les doigts gonflés de son unique main se tordaient comme de gigantesques vers blancs. Monsieur Roon entra.
« Vous pouvez vous asseoir. »
Les yeux écarquillés, sentant sa raison lui échapper, Dale s'approcha de sa place de l'an dernier et s'y assit. Harlan s'installa à la sienne au premier rang où les institutrices pouvaient garder un œil sur lui.
« Vous voyez bien, » murmura Roon. « Le maître récompense ceux qui obéissent à ses ordres. »
Il étendit sa main pâle vers Van Syck, qui continuait à flairer l'air et à tâtonner devant lui avec ses doigts crochus.
« La mort n'existe pas pour ceux qui servent le maître. »
Le directeur fit quelques pas en direction du bureau derrière lequel siégeaient les deux institutrices. Le soldat et ce qui avait dû être Mink Harper entrèrent, portant la chaise sur laquelle Lawrence, toujours ligoté par des ligaments de chair, était assis, la tête rejetée en arrière et les paupières papillonnantes. Dale esquissa un mouvement pour se lever, mais Van Syck se tourna vers lui, humant l'air comme un aveugle. La forme blanche de ce qui avait été Tubby se plaça dans l'ombre, derrière Dale.
« Nous voici prêts à commencer. »
reprit Monsieur Roon en ouvrant sa montre de gousset et en adressant un large sourire aux deux garçons.
« Je suppose que je pourrais vous expliquer. Vous parlez de l'ère nouvelle qui commence. Vous montrez combien vos petites manœuvres nous ont en fin de compte peu gênés. Vous informez plus en détail de la façon dont vous servirez le maître sous votre nouvelle forme.
Il ferma sa montre, la rangea.
Mais à quoi bon? Le jeu est terminé. Vous n'avez plus aucun rôle à jouer. Adieu.
Rune fit un signe de tête et le soldat s'avança, les jambes raides, en levant lentement les bras. Jusqu'à présent, Dale avait évité de poser les yeux sur lui et les autres horreurs de la classe. Il se décida à le regarder. Sa figure n'était même plus un simulacre de visage humain. Le long groin ressemblait à un cratère laissé après l'implosion du crâne. De petites bêtes s'agitaient dans les plaies et déchirures non refermées. Le soldat glissa comme un patineur vers Arlène, tandis que Van Syck s'approchait à tâtons. Monsieur Rune et la forme déchiquetée surmontée d'une partie de visage de Mink Harper allèrent se placer devant la porte. Un grincement et de faibles gémissements parurent émaner du mur et du plancher. Les toiles de filaments et les nodosités semblèrent plus roses. Un liquide suinta du plafond en longues traînées gluantes.
« Foutu saloperie !»
dit Arlène en quittant son pupitre et en reculant pour se rapprocher de Dale.
« Je savais bien que je détestais l'école !»
ajouta-t-il, les lèvres tremblantes. Ils bondirent ensemble par-dessus la rangée de pupitres, pataugeant dans les monticules de moisissures en direction du fond de la pièce. Le soldat glissa sans un geste vers leur droite. Toby Cook enfonça son visage dans les algues et disparut dessous, comme un bébé se cachant sous son édredon. Dale et Arlène sautèrent de pupitre en pupitre, baissant la tête pour éviter les sacs à eux pendant autour d'eux. La moisissure s'agglutinait en longues traînées sur leurs jeans et leurs tennis. Monsieur Rune claqua des doigts avec impatience, et toute l'école sembla retenir son souffle, tandis que Van Syck et le soldat enjambaient la première rangée de pupitres. Un coup de feu retentit en bas. En suivant le couloir du sous-sol, Mike avait fait ses comptes. Une torche brisée, un pistolet à eau plein perdu, un autre cassé, un pantalon fendu au genou et trempé devant et derrière, d'eau bénite. Le seul avantage, un vampire hésiterait à mordre un tel arrière-train. Bien que le sous-sol fût dépourvu de fenêtres, il voyait à peu près clair grâce à la phosphorescence des murs et à la lamproie qui finissait de se carboniser dans le couloir. Elle avait l'air morte, sa chair était calcinée en mains endroits, des cendres rougeoyaient à l'emplacement des boyaux et sa gueule avait cessé de s'ouvrir et de se fermer. Une fois ses pertes inventoriées, Mike passa à la colonne crédit. Le fusil de mémo chargé, plus 4 cartouches, le reste ayant été soit utilisé, soit perdu lors de sa sortie précipitée du tunnel, et une assez bonne forme physique si l'on négligeait les meurtrissures, les écorchures et les tremblements. Il enjamba les débris de la porte du rez-de-chaussée et entra dans Hall Central. Il inventoria rapidement les changements survenus dans la vieille école en quelques semaines et jeta un bref coup d'œil sur le sac à eux palpitant, grouillant d'yeux et de jambes, suspendu au-dessus de lui dans le clocher. Il venait de poser le pied sur le Savage à canon superposé de Dale quand un mouvement dans la pénombre figea son geste. Une silhouette, sortie de la classe du cours élémentaire de Madame Gessler, se dirigeait vers lui en poussant de petits miaulements, presque couverts par les grincements et les gémissements du bâtiment sous les coups de boutoir de la tornade. Mike mit un genou à terre, ramassa le Savage et le coinça sous son bras gauche en épaulant le fusil à écureuil. Le père Cavano sortit de l'obscurité. On eût dit qu'il essayait de parler, mais il n'avait plus de lèvres. Même dans cette faible lumière, Mike distinguait les grands points avec lesquels M. Taylor avait cousu ensemble ses gencives. Il sembla à Mike que l'abominable apparition essayait de prononcer son nom.
« Michael ?»
Le garçon n'attendit pas qu'il soit à moins de 3 mètres. Il mit en joue et tira en plein visage. La déflagration et ses échos furent épouvantables. Les restes du prêtre tombèrent en arrière sur le sol visqueux. Son corps roula contre la rampe, tandis que des morceaux de son crâne étaient projetés dans une autre direction. Pratiquement décapité, il roula sur les mains et continua à ramper vers le garçon. Parfaitement calme maintenant, agissant comme en état second, tandis que son esprit s'occupait d'autre chose, Mike appuya le canon du Savage sur le dos de la créature qui avait vaguement l'apparence du prêtre et tira. L'obscène image de son ami se tordit sur le sol collant, la colonne vertébrale brisée. Mike recula, prit dans sa poche deux de ses quatre dernières cartouches, rechargea les deux armes. Son pied heurta un objet en plastique. Il reconnut l'un des Tokiwoki. Il le prit, essuya les traînées gluantes et appuya sur le bouton. L'appareil grésilla. Il appela Kevin qui répondit au troisième appel.
« Merci, mon Dieu !»«
Fais tout sauter, Kev !»
hurla-t-il dans l'appareil.
« Maintenant, fais sauter cette maudite école !»
Il répétait son ordre lorsque Dale cria au premier étage. Préférant les fusils au Tokiwoki, il lâcha l'appareil et grimpa 4 à 4 les escaliers. Les toiles d'araignée, les nodosités et même les murs vibraient et tremblaient autour de lui, comme si l'école était un organisme vivant sur le point de s'éveiller. Mike trébucha, tituba sur l'escalier glissant, reprit son équilibre et bondit sur le palier du premier étage. La lumière au-dessus de lui devenait d'instant en instant plus rougeoyante.
« Mike ! Ici !»
Le cri de Dale lui parvint de derrière un rideau de fibres noirâtres, là où se trouvait autrefois la porte de la classe de Madame Fodder. Un grondement en sortait, comme si elle était occupée par une meute de molosses affamés. Mike savait que s'il hésitait une seconde, il n'aurait plus le courage d'entrer. Il releva le chien de ses deux armes et chargea.